monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 17 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Attente des résultats des élections au Mozambique, les observateurs ont jugé globalement normal le déroulement du scrutin. En RDC, 3 morts et plusieurs blessés dans une manifestation d'exploitants miniers dans le Haut-Katanga. Accord sur le Brexit entre Londres et Bruxelles, son adoption au Royaume-Uni semble déjà compromise. Décès du démocrate Elijah Cummings, qui jouait un rôle important dans l'enquête pour une éventuelle destitution du président Donald Trump. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Les missions d'observateurs au Mozambique ont jugé globalement normal le déroulement des élections générales, tout en émettant des réserves sur le dépouillement et la campagne électorale. Et Kabadou nous en dit plus.
Les Mozambicains ont voté mardi pour des élections présidentielles, législatives et provinciales dans un climat de tension, de violence et des soupçons de fraude émis par l'opposition et la société civile. Les résultats ne sont pas encore officiellement publiés. Le président sortant, Philippe Nyusi, et son parti, le Frémilo, sont donnés largement favoris à la présidentielle et aux législatives. La RENAMO, l'ex-rébellion devenue principal parti d'opposition, pourrait prendre le contrôle dans plusieurs des 10 provinces du pays. Mais l'absence d'observateurs locaux dans presque la moitié des bureaux de vote au moment du dépouillement ne contribue pas à la transparence, a déclaré Ignacio Sanchez Amor, chef de la mission d'observation de l'Union européenne lors d'une conférence à Maputo. Plusieurs missions d'observateurs ont exprimé leurs doutes sur le nombre d'inscrits dans la province de Gaza, dans le sud. Des ONG locales ont indiqué avoir relevé la présence de 300 000 électeurs fantômes.
À Conakry, la circulation était fluide et quelques magasins ont rouvert après 3 jours de manifestation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé qui ont fait 9 morts. Le Front National pour la Défense de la Constitution avait appelé à observer une journée ville morte. L'accès aux quartiers de la présidence et des ambassades sont toujours filtrés, mais les gendarmes et policiers ont remplacé les bérets rouges. Le Parlement béninois a annoncé qu'il voterait des réformes électorales le plus rapidement possible et accorderait une amnistie aux personnes en détention depuis les violences post-électorales. Des prochaines lois vont concrétiser les décisions prises au niveau du dialogue politique, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. À l'issue des échanges du 10 au 12 octobre, les participants ont recommandé l'amendement de la charte des partis politiques et du code électoral dans l'optique de favoriser la participation de tous les partis au processus électoral. La force du G5 Sahel a repris ses opérations début octobre après plusieurs mois d'arrêt et permis une importante saisie d'armes dans le nord du Niger. Cette opération menée du 1er au 10 octobre par le bataillon nigérien de Madama en coopération avec une unité tchadienne et avec le soutien de Barkhane est la première depuis la prise de fonction fin juillet du nouveau commandant nigérien de la force Oumarou Namata Gazama, a déclaré ce jeudi le porte-parole de l'état-major français Frédéric Barbie. Les enquêtes se poursuivent en République démocratique du Congo après le crash le jeudi dernier d'un avion militaire Antonov transportant la logistique présidentielle. Les débris de l'appareil ont été retrouvés dans un village de la province du Sankuru. Les restes de 3 corps trouvés sur place ont été placés à la morgue à Kananga, dans le Kasaï central. Les détails avec Thierry Kabundi, notre correspondant à Kinshasa.
Une première délégation gouvernementale s'est rendue sur le lieu du crash hier mercredi. Cette équipe, composée notamment du ministre de la Défense, du ministre des Transports, d'un représentant du chef de l'État ainsi que des responsables militaires, y était précédée par le gouverneur de province qui, la veille, avec un premier groupe d'experts, a réussi à déterrer les restes des 3 corps des victimes du drame. Le gouvernement, qui ne communique que très peu depuis le jour du crash, a simplement, dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, appelé la population au calme et à la retenue. Les enquêtes sont présentement menées par des experts congolais avec un appui logistique de la MONUSCO. Ils promettent de tirer au clair et au plus vite cette affaire. Pour rappel, Antonov 72 avait disparu le jeudi 10 octobre dernier alors qu'il avait quitté Goma pour Kinshasa avec à son bord 8 personnes et la logistique présidentielle d'après un communiqué de l'autorité de l'aviation civile. Les habitants de Koto dans la province du Sankuru ont découvert les débris de l'appareil le vendredi à 7 km de leur village. Kinshasa, Thierry Kambundi pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, 3 personnes ont été tuées dans une manifestation de riverains contre une coopérative exploitant une mine de cuivre et de cobalt à Lonchi, dans le Haut-Katanga. D'autres manifestants ont été blessés dans les échauffourées avec les forces de l'ordre, a déclaré Yuma Hassani, administrateur du territoire de Sakania, précisant que les manifestants ont mis le feu à 10 camions de transport des minerais et 3 autres gros véhicules. Par ailleurs, une marche contre la corruption initialement prévue pour samedi à l'appel d'un collectif proche de l'Église catholique a été renvoyée à lundi. La marche est décalée de 48 heures car les autorités de la ville organisent le même jour une mobilisation pour la propreté dans la ville de Kinshasa. Au Malawi, la police a ouvert une enquête pour viol et torture à la suite d'allégations d'organisation des droits humains visant des policiers soupçonnés d'avoir agressé des femmes en marge de manifestations post-électorales. Depuis les élections présidentielles et législatives de mai, le Malawi est le théâtre de manifestations de l'opposition qui dénonce la réélection du président sortant, Peter Mutharika.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni réunis à Bruxelles ont trouvé un accord sur le Brexit en attendant les votes des parlements européens et britanniques. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous en avons un et cet accord signifie qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque prolongation, a déclaré Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Le compromis trouvé modifie le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, cette dernière faisant toujours partie du territoire douanier britannique. Il établit des règles douanières particulières pour les marchandises arrivant en Irlande du Nord, selon que ces marchandises sont destinées à y rester ou à passer dans le marché unique européen. L'accord prévoit aussi le consentement des autorités nord-irlandaises sur l'application de certaines règles de l'Union européenne dans leur territoire. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté les députés britanniques à soutenir cet accord pour faire aboutir le Brexit le 31 octobre. Le parti unioniste nord-irlandais, allié des conservateurs au Parlement britannique, dit qu'il ne voterait pas cet accord. Ce parti regrette un manque de clarté sur le régime de taxes qui sera appliqué en Irlande du Nord. Le parti travailliste a appelé les députés à rejeter ce compromis. Le vote est prévu pour samedi.
Lors d'une conférence de presse à Washington, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, s'est félicitée de l'accord trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le Brexit, tout en espérant que la même volonté se maintiendra jusqu'à son approbation par le Parlement britannique. Par ailleurs, Madame Georgieva a déclaré que la trêve commerciale entre Washington et Pékin était aussi une bonne nouvelle, mais a pressé les deux pays de parvenir à une solution durable pour préserver la croissance mondiale. Elijah Cummings, un élu démocrate du Congrès américain qui jouait un rôle important dans l'enquête pour l'éventuelle destitution du président Donald Trump, est décédé ce matin à l'âge de 68 ans. Bagassi Koura nous en dit plus.
L'élu du Maryland à la Chambre des représentants est décédé à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore de complications liées à des problèmes de santé de longue date. Africain-américain, il siégeait au Congrès depuis 1996. Il occupait un rôle central dans l'enquête des démocrates pour une éventuelle destitution du président Trump. Il s'est souvent opposé au président américain qu'il avait vivement critiqué. Donald Trump a mis de côté leur querelle et a présenté ses, je cite, « chaleureuses condoléances à la famille et aux nombreux amis du président Elijah Cummings. J'ai moi-même expérimenté la force, la passion et la sagesse de ce dirigeant politique très respecté. Son travail et sa voix sur tant de fronts différents seront très difficiles, sinon impossibles à remplacer », a tweeté le président américain. La circonscription de Cummings couvrait une large partie de Baltimore, ville majoritairement noire, minée par de nombreux problèmes sociaux, la drogue et la violence. Apprendre la disparition d'Elijah Cummings m'a fait un coup dans l'estomac, a réagi Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat, qui parle d'une énorme perte.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique présentée par Nani Talani pour la Minute Éco.
En Éthiopie, le chiffre d'affaires d'Ethio Telecom a augmenté de 21% au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Il a atteint 343 millions de dollars avec un nombre d'abonnés en hausse de 10%. D'après le directeur général Freeworld Tamiru, cette hausse s'explique par la réorganisation des produits existants et le lancement de nouveaux. Grâce aux tarifs réduits sur Internet et les données, la consommation des produits a augmenté de 92%. Shell envisage d'exploiter des concessions en Égypte au cours du second trimestre de 2020. La société a remporté 3 concessions pétrolières et 2 gazières dans le pays en février. Elle est également intéressée à participer à un appel d'offres en Égypte pour des travaux de forage pétrolier et gazier dans la mer Rouge. Shell serait aussi intéressée par toute offre du même genre en Méditerranée. Pour terminer cette minute éco, la justice suisse a condamné le négociant genevois en matière première Genvor à payer plus de 85 millions d'euros pour corruption au Congo et en Côte d'Ivoire. Le tribunal explique que l'entreprise n'a pas empêché entre 2008 et 2011 la corruption d'agents publics dans ces deux pays pour accéder à leur marché pétrolier. Des 85 millions, Genvor versera plus de 3,6 millions d'euros d'amende au canton de Genève où se trouvent ses bureaux. Le reste, soit près de 82 millions, seront versés à la Confédération suisse en forme de créances compensatrices correspondant à la totalité des profits réalisés par Genvor sur les affaires en cause menées au Congo et en Côte d'Ivoire.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors Idrissa Gueye est blessé et absent pour 10 jours.
Oui Nathalie, le milieu international sénégalais du PSG souffre d'une contracture aux ischio-jambiers et sera absent lors des 10 prochains jours d'entraînement. Idrissa Gueye, 30 ans, arrivé à Paris l'été dernier en provenance d'Everton, va donc manquer le voyage à Nice demain pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 et le déplacement à Bruges mardi en Ligue des Champions. Le club parisien a déjà perdu lors de la trêve internationale sa superstar Neymar pour les 4 prochaines semaines. Gana Gueye qui a disputé 8 matchs sans, dans lesquels son club n'a jamais perdu ni encaissé le moindre but, pourrait aussi rater le classico du championnat de France opposant le PSG à l'Olympique de Marseille le 27 octobre à Paris.
Et Paul Pogba, également absent pour le choc entre Manchester et Liverpool.
Le milieu de terrain français de Manchester United ne sera pas sur le terrain dimanche à Old Trafford pour le choc face à Liverpool. Paul Pogba, blessé à une cheville depuis le mois d'août avec son club, a manqué les 4 derniers matchs des qualifications pour l'Euro 2020 avec la France. Face au leader de la Premier League, les Red Devils 12e du classement devront en plus composer avec le forfait de leur gardien David De Gea, blessé à la jambe droite lors de la rencontre opposante la Roura à la Suède mardi en qualification pour l'Euro 2020.
Et Yacouba, le président de la FIFA veut une interdiction mondiale de stades contre le racisme.
Et oui, Gianni Infantino a plaidé en faveur d'une interdiction mondiale de stade pour les spectateurs coupables d'actes racistes. 3 jours seulement après les incidents lors du match Bulgarie-Angleterre, lundi on se rappelle, le match de qualification à l'Euro 2020 entre la Bulgarie et l'Angleterre à Sofia a été interrompu 2 fois après des actes racistes visant des joueurs noirs de l'équipe anglaise. Le président de la FIFA a assuré qu'il est désormais facile d'identifier les auteurs de ces actes grâce aux caméras dans le stade. Ils doivent être arrêtés, expulsés des stades, ne plus être autorisés à y entrer et des procédures judiciaires doivent être lancées contre eux, a demandé Gianni Infantino.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. Les activités ont repris dans la capitale guinéenne après 3 jours de manifestation. L'appel du Front National pour la Défense de la Constitution à une journée ville morte ce jeudi n'a pas été largement suivi. De nombreux Guinéens sont sortis par nécessité. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les rues de la capitale grouillent de monde ce jeudi. Malgré l'appel à une ville morte, les Guinéens rencontrés dans les rues de la capitale n'en peuvent plus de rester à la maison.
Le panier de la ménagère qui nous coûte cher et que le pouvoir d'achat est vraiment dérisoire. Donc le Guinéen est obligé de sortir. Le Guinéen vit le quotidien, le Guinéen vit le jour le jour. Et, bah, je trouve ça normal.
Mais ça fait 3 jours qu'on ferme à la maison. On a des familles vraiment qu'on doit nourrir. Mais l'enfant, bon, si on ne sort pas, ça ne marche pas du tout. Il faut qu'on sorte pour gagner quelque chose à manger quand même.
Les violences ont été enregistrées sur la route Le Prince. Pendant 3 jours, les commerces sont restés fermés. À Koloma, quartier périphérique de Conakry, il a fallu l'intervention des sages auprès des forces de sécurité pour que les femmes reprennent le chemin du marché. Karamoko, sage du quartier.
On s'est mobilisé, on s'est retrouvé au CMS, près des autorités compétentes. Ces gens-là, vraiment, ils nous ont bien écoutés d'une très bonne oreille et effectivement, ça a marché parce que ça a porté fruit ce matin. On nous apprend que vraiment les femmes ont eu la fluidité de rentrer dans le marché, de faire les emplettes et de retourner. Parce que cela, c'était un blocus depuis 2 jours.
À Conakry, plusieurs boutiques sont fermées par endroits, les cours perturbés dans certaines écoles, comme en témoigne Bana Diara, proviseur du lycée Kipé.
Tant qu'il n'y a pas l'affluence, les bandits ne viendront pas. On est obligé de laisser les enfants sortir pour aller dans le quartier manger. Et quand ils vont, à peine certains reviennent. Maintenant, par exemple, c'est une seule classe qui est revenue, la 11e mathématique, qui est en train de suivre un cours de physique maintenant là, avec une quinzaine d'élèves. Et une classe d'expérimental terminale, aussi en train de suivre un cours de mathématiques. Mais là, il n'y avait que 5 élèves, mais il y a 2 professeurs. Puisque les 5 élèves sont venus, il ne faut pas qu'ils retournent comme ça. Il faut leur donner quelques coups, puis ils ont venu pour ça.
Les violences des 3 jours de manifestation contre le 3e mandat d'Alpha Condé ont fait 9 morts, selon le gouvernement guinéen. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nous allons aborder l'agitation politique meurtrière qui se poursuit en Guinée. La rue se mobilise contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Pourquoi la situation continue de se dégrader? Quelle solution à la crise actuelle? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Londres et Bruxelles ont trouvé un accord pour faire aboutir le Brexit à la date prévue du 31 octobre. La validation du nouvel accord, qualifié de juste et équilibré par les parties aux négociations, est suspendue au vote très incertain du Parlement britannique. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Édimbourg en Écosse, la journaliste indépendante Assa Samakeroman.
Un des points qui coincent le plus, c'est le fameux backstop nord-irlandais. En fait, en quelque sorte, c'est un filet de sécurité. Jamais l'Union européenne et le Royaume-Uni n'arrivaient pas à trouver un accord commercial, en fait, dans le futur, à faire en sorte qu'il n'y ait pas une frontière dure qui se mette en place sur l'île d'Irlande, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui fait, elle aussi, partie de l'Union européenne. Là, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, finalement, l'accord de retrait a été rouvert Et ce qui va se passer, c'est que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande vont être dans une même zone douanière réglementaire qui permettra en fait qu'il n'y ait pas une frontière dure sur l'île qui séparerait donc la partie de l'Union européenne, donc l'Irlande, et le Royaume-Uni. Et donc, les produits qui vont circuler entre l'Union européenne et le Royaume-Uni vont en fait être contrôlés, non pas à cette frontière-là, mais en fait dans une frontière qu'il y aura en mer d'Irlande, entre donc la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. La principale nouveauté, il y a aussi des arrangements nouveaux qui ont été trouvés au niveau de l'application de la TVA, notamment en Irlande du Nord, aussi ce qu'on appelle le consent, donc le fait que l'Assemblée d'Irlande du Nord devra se prononcer pour ou contre la poursuite de cet arrangement.
Est-ce que c'est un bon accord par rapport à l'accord de Theresa May ?
Pour Boris Johnson, c'est effectivement un très très bon accord, tout simplement parce qu'il a réussi à se débarrasser du backstop. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne passait pas du tout auprès de nombreux conservateurs, mais aussi auprès du DUP, le Democratic Unionist Party, qui en fait soutient le Parti conservateur parce qu'ils n'ont pas de majorité au Parlement britannique, ils ont perdu cette majorité en 2017. Donc maintenant, il a pu mettre ce backstop à la poubelle et proposer ce nouvel arrangement, alors qu'on lui avait dit que ce ne serait pas possible que l'Union européenne ne l'accepterait pas. Évidemment, l'opposition est extrêmement contre. Pour le Parti travailliste, c'est un accord qui est pire. Donc le chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, a dit que ses députés ne voteraient pas pour cet accord. Pour d'autres partis, comme les libéraux démocrates, par exemple, c'est évident qu'ils ne voteront pas pour, tout simplement parce qu'ils sont opposés au Brexit, en fait, comme principe. Et si jamais ils arrivent au pouvoir un jour, ils veulent même carrément annuler le Brexit, mais au minimum avoir un deuxième référendum pour que les gens puissent décider si c'est vraiment la direction dans laquelle ils veulent aller ou est-ce qu'ils préfèrent rester dans l'Union européenne. Samedi, les députés vont exceptionnellement siéger au Parlement britannique pour savoir quoi faire de cet accord. Soit ils vont le voter, et si ça passe, très bien, dans ce cas-là, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne le 31 octobre. Soit ça ne passe pas, et dans ce cas-là, légalement, que les députés ont voté cette fois, Boris Johnson va être obligé de demander une extension, donc un report du Brexit, à l'Union européenne.
Oui, mais la Commission européenne exclut un nouveau report du Brexit.
Je ne pense pas que l'Union européenne dise, avant même de savoir qu'il va être voté samedi, qu'il n'y aura pas d'extension. C'est pour ça que je dis que c'est ce samedi qu'on en saura peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que ce que j'entends, moi, dans ce que Jean-Claude Juncker a dit, c'est une pression, en fait, mise sur les députés. Et en fait, aussi montrer que l'Union européenne a vraiment une volonté de classer le dossier Brexit pour pouvoir passer à autre chose, parce que ça a pris quand même beaucoup de temps et d'énergie dans l'UE, et le Bloc aimerait beaucoup, en fait, s'intéresser à d'autres sujets qui sont urgents. Et des pays dans le Bloc, notamment la France, font pression pour que, surtout, ce Brexit soit voté.
La journaliste Assa Samaké-Roman était jointe à Édimbourg en Écosse.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'enquête en vue d'une éventuelle destitution du président Donald Trump s'est intensifiée avec le retour des parlementaires au Capitole après une suspension de 2 semaines. Les démocrates estiment que M. Trump a ouvert la porte à une intervention étrangère dans les élections de 2020, ce que rejette le président américain. Le point avec Lionel Gaïma.
La semaine a été bien remplie pour les démocrates au Congrès. Beaucoup d'anciens responsables de l'administration Trump ont témoigné à huis clos. Le député Elliot Engel, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre.
Je ne pense pas que nous ayons atteint notre objectif pour le moment. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Et nous sommes en train de les faire.
Une plainte d'un lanceur d'alerte accuse le président Trump d'avoir suspendu une aide américaine à l'Ukraine en échange d'une enquête sur son rival Joe Biden et son fils Hunter. C'est la raison pour Adam Schiff, président de la Commission du renseignement de la Chambre, d'exiger des informations supplémentaires que l'administration Trump refuse de donner.
Les arguments en faveur de l'obstruction au Congrès continuent de se développer.
Le président Trump affirme qu'il ne va pas coopérer tant que les démocrates n'auront pas tenu un vote pour officialiser leur enquête. C'est un jeu pour saper l'autorité du Congrès, d'après Nancy Pelosi, présidente de la Chambre de représentants.
Nous ne sommes pas ici pour faire du bluff. Nous sommes ici pour trouver la vérité, pour faire respecter la Constitution des États-Unis.
Mais le président accuse Nancy Pelosi et les démocrates de faire un jeu politique.
C'est juste complètement fou. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire la transcription de l'appel. Lisez-les. C'est un cas simple et ouvert. Ils sont désespérés parce qu'ils savent qu'ils vont perdre l'élection.
Adam Schiff est aussi une cause de frustration des républicains. Il fait face à un vote formel de désaveu introduit par les alliés de Trump au Congrès. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre.
Il n'y a rien que le président ait fait dans cet appel qui puisse justifier une procédure de destitution. Et vous savez quoi? Si la porte-parole de la Chambre avait attendu 48 heures, 48 heures pour avoir la transcription, nous ne serions pas subir tout ceci à l'Amérique.
Les démocrates subissent des pressions pour organiser un vote avant la fin de l'année, pour ne pas empiéter sur les débuts officiels de la campagne présidentielle en février prochain. Mais pour certains démocrates, le temps ne devrait pas être une préoccupation. Sheila Jackson Lee, représentante démocrate.
Il est important de comprendre que nous ne sommes pas dans une course contre la montre pour ne pas donner l'impression que nous sommes heureux de faire ce que nous faisons, que c'est une célébration et que tout ce que nous voulons, c'est de garder ou destituer le président.
La prochaine étape des démocrates, c'est de savoir davantage sur les échanges textos entre d'anciens membres du gouvernement.
Dans les rues de New York, les vendeurs à la sauvette africains, originaires pour la plupart du Sénégal et du Mali, essayent tant bien que mal de s'en sortir. Postés sur les lieux touristiques de la ville, ils vendent toutes sortes de marchandises, des objets de souvenirs aux sacs de contrefaçon, en passant par les accessoires saisonniers comme les lunettes de soleil ou les parapluies. Notre correspondante à New York, Dilly Dico, est allée à leur rencontre.
De jour comme de nuit, les vendeurs à la sauvette africains essayent de gagner leur pain, mais aussi celui de leur famille restée à Dakar, Bamako, Conakry ou ailleurs. Ils sont le symbole de l'Africain parti en Occident pour essayer de trouver un avenir meilleur. Ils sont aussi le symbole d'une mondialisation hétérogène où les disparités sont telles que près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 2 dollars par jour. Cela fait un peu plus d'un an que Samba est arrivé à New York pour tenter sa chance et en finir avec la routine des salaires impayés.
Je suis venu ici parce que au pays j'étais fonctionnaire, mais la charge que j'avais au pays, mon salaire ne me permet pas de subsister à tous mes besoins. Donc j'ai décidé de venir pour avoir un peu d'humeur. Le salaire, si c'était stable, je n'allais pas abandonner. Moi, je vois que ce que je gagne ici, bien vrai que c'est très difficile d'en arriver, mais ce que je gagne ici, le tiers, je ne le gagnais pas au Sénégal. Je suis mieux à l'aise qu'ici au Sénégal.
Membre de la gendarmerie sénégalaise, Samba a servi comme casque bleu en RDC, en Haïti et plus récemment au Mali. Malgré le fait qu'il n'était pas au chômage, à moyen terme, un avenir de vendeur à la sauvette semblait plus attrayant que celui de petit fonctionnaire. Au cours de ce même après-midi, à deux blocs de l'étalage de fortune de Samba, trois compatriotes ont été arrêtés par la police alors qu'ils vendaient des sacs et des porte-monnaies de contrefaçon. Environ une heure après cette arrestation, deux policiers sont passés devant Samba, mais ils ont fait fi de lui. Il explique son coup de bol et la raison pour laquelle il fait ce métier qui demande d'être en constante alerte.
En général, si on voit, c'est presque tous les policiers, si on les voit venir, par signe de respect, on ferme les bagages. Mais il y a une police qui est particulièrement ici pour ce genre de travail. Parce que vous savez bien que ce qu'on fait là, c'est interdit. Donc on le fait de gré ou bien, je ne dirais pas de gré, mais je te dirais qu'on le fait parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Donc c'est mieux que d'aller voler pour moi.
La nécessité et le fait de n'avoir d'autre choix sont les points communs qui poussent les vendeurs à la sauvette à vivre de la vente illégale. Que ce soit à Paris, Barcelone ou New York, le quotidien des vendeurs ambulants est le même. Marchander, réussir une transaction, courir à en perdre le souffle, trimballer parfois jusqu'à 30 kilos de marchandises et se planquer, la peur au ventre en attendant la fin du raid. Puis lorsque l'alerte est levée, rebelote, les activités reprennent. Dilly Dico, VOA, New York.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était José Le Morissin et Michael Dubinsky. À la présentation, Nathalie Barge. Restez avec nous à l'écoute de VO Afrique en compagnie de Henri Francisque pour un rappel des grands titres de l'actualité dans le monde.
VOA Afrique.